Bonjour, bienvenue à Pour un Québec apprenant, ici Anne-Marie Kerouac qui vous retrouve pour cette dernière émission de cette série d'émissions spéciales produites par CIBL en collaboration avec l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes, l'ICEA. À tous les deuxièmes mercredis du mois, vous proposez cette série d'émissions spéciales et on vous le disait, on vous l'annonçait depuis le début de l'année que cette série d'émissions s'inscrivait dans le cadre de la démarche que l'ICEA avait entreprise pour la tenue d'un grand événement qui a eu lieu les 30 et 31 mai dernier, le rendez-vous Pour un Québec apprenant, 24 heures pour un Québec apprenant. Et donc, cet événement a eu lieu. On était présent. Il y a un journaliste qui était présent, qui a recueilli, entre autres, plusieurs témoignages qu'on vous présentera tout au long de l'émission. Donc, aujourd'hui, on fait un retour sur cet événement du 24 heures pour un Québec apprenant, entre autres, avec Ronald Cameron, le directeur général de l'ICEA, et Hervé Dignard, chargé de projet aux politiques en éducation des adultes. Et on vous présente, comme je vous le disais, des témoignages, donc, de gens qui étaient présents à ce 24 heures, des gens autant du milieu de la formation des adultes, milieu du travail et aussi du syndicat de l'enseignement. On aura, entre autres, José Scalabrini, vice-présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement, Chantal Haines, qui est conseillère en ressources humaines, responsable de la formation chez Axéo Solutions, une entreprise qui travaille en technologie de l'information. Et on aura aussi Catherine Jasmin, qui est secrétaire générale du Mouvement québécois des adultes en formation. Mais pour tout de suite, dans quelques instants, on revient là-dessus pour vous décrire comment s'est déroulé ce 24 heures pour un Québec apprenant. Ronald Cameron, bonjour.
Bonjour Anne-Marie.
Directeur général de l'ICEA, que je mentionne en introduction, accompagné d'Hervé Dignard, chargé de projet aux politiques en éducation des adultes. Bonjour Hervé.
Bonjour Anne-Marie.
Bonjour. Donc, cet événement, je dis, a eu lieu le 31 mai dernier. Un événement d'envergure quand même qui était attendu par tous ceux qui sont impliqués de près ou de loin dans la formation des adultes au Québec. Un événement qui s'est bien déroulé, je pense. Hein?
Oui, on est pleinement satisfait des résultats. Les réseaux ont répondu en présence et en contenu, je pense, tout au long de l'année. Et en présence, c'est qu'on a atteint les objectifs. Les gens qui étaient là, c'est des représentants en quelque sorte, et c'est des gens qui font la formation, c'est des gens de première ligne. Donc, on avait une sélection d'acteurs qui ont les deux mains dans le cambouis, comme on dit, et qui représentaient à peu près tous les réseaux. Alors ça, c'est extrêmement important parce que c'était le défi compte tenu de la dispersion. Je pense qu'on a parlé un peu de ça à la dernière émission.
Oui.
Et du sentiment d'isolement de l'éducation aux adultes compte tenu du peu d'actualité qu'il y a autour des enjeux qu'il y a en éducation des adultes.
C'est ça, d'où le besoin de regrouper tout le monde, que tout le monde se connecte et finalement mettre les ressources en commun. C'est ça.
Exactement.
Aussi.
Exactement. Je pense que ça a été une occasion. Parmi les objectifs, on avait la volonté de créer des collaborations entre les différents réseaux. Donc, il y a eu des rencontres bilatérales, des accointances, et on avait structuré les choses de telle sorte qu'il y ait l'imagination pour développer ces collaborations-là et aussi faire en sorte que ensemble on puisse identifier des orientations et des actions et préciser un peu la suite des choses de telle sorte à créer un mouvement pour le droit d'apprendre tout au long de la vie.
Et des actions concrètes aussi, on va en parler avec Hervé Dignard. On avait parlé au cours de la dernière émission de cette consultation qu'il y avait eu à partir de l'automne dernier, qui a été faite donc dans le but de mettre sur papier un peu les idées des gens, un peu reliées aux besoins des adultes, des intervenants dans le milieu de l'éducation, des orientations qui ont été présentées lors de ce 24 heures. Oui. Donc, c'était ça un peu le point de départ des discussions.
Oui, exactement. On a commencé par justement le présenter des orientations pour un Québec apprenant. L'objectif, on a sensibilisé les gens, les participants, en leur disant ne débattez pas du libellé de l'orientation, mais plutôt de la manière de la mettre en action. Donc, l'objectif de l'événement, c'était de traduire chacune des orientations en action. Et puis là-dessus, je pense que ça a quand même bien accroché. Là, les gens ont en règle générale été capables de nous donner d'excellentes pistes d'action là,
ouais,
pour construire là, ce qu'on pourrait appeler là, un plan d'action pour un Québec apprenant.
C'est ça, un plan d'action qu'on va définir un petit peu plus tard aussi, parce qu'il y a eu quand même des choses concrètes qui ont été décidées, si on peut dire, là, dans cette rencontre-là. Mais juste pour revenir un peu sur l'ambiance qu'il y avait, ça s'est déroulé, bon, le titre le dit, 24 heures pour un Québec apprenant. C'était presque 24 heures, pas non, sans arrêt quand même. Les gens ont dormi et mangé un peu en 24 heures.
Oui, ils ont pris le temps de dormir.
C'est ça quand même. Et des gens qui venaient de tous les coins du Québec, quand même, des gens qui sont venus de loin là, pour venir à ces rencontres-là.
En fait, je dirais qu'on n'a pas un exact portrait là, de la représentation régionale. Là. Ceci dit, par exemple, il y avait environ, là, si on peut diviser ça, là, en la moitié des gens venaient des régions du Québec. Puis là, je parle de diverses régions. Là, la Montérégie, la Laurentie, la Naudière, c'est sûr, c'est autour de Montréal, mais aussi là, des gens de Québec, des gens du Lac-Saint-Jean. Il y avait une excellente représentation du côté là, de la formation générale des adultes, parce qu'il y a un syndicat, la Fédération des syndicats de l'enseignement du Québec. Oui. Qui a largement participé là, en envoyant là, environ une délégation de 90 personnes. Là. Donc, ça l'a aidé justement là, à la représentation régionale. Au plan plus à Montréal, il y avait environ un quart des participants, c'était des gens qui venaient de la grande région de Montréal. Puis il y avait un autre quart des participants, c'était plus des gens qui appartenaient à des organismes nationaux. Des organismes nationaux, là, je parle à la grandeur du Québec. Là.
Oui,
parle de grands syndicats, de grands regroupements là, d'employeurs, etc., etc.
Il y avait des représentants du gouvernement aussi, du ministère de l'Éducation?
Oui, il y avait six personnes qui venaient du ministère de l'Éducation, du MES et du MIC, si ma mémoire est bonne. En tout cas, il y avait Emploi Québec aussi. Bref, il y avait six personnes qui venaient du ministère de l'Éducation puis qui s'intéressaient tout particulièrement à l'éducation des adultes, entre autres choses, là, à une future politique en éducation des adultes, là, qui est un projet dans l'air. Là, du
ben oui, qui est en cours, ben, enfin, on dit dans les prochaines années. On est en train de l'élaborer. Là.
Ça, on serait en train de la rédiger, là, semble-t-il.
On va l'attendre dans les ballons. Voilà, j'avais eu une discussion justement dans les émissions précédentes avec quelqu'un du gouvernement qui disait que, pas dans les prochains mois, mais quand même dans les prochaines années, ça devrait arriver plus concrètement. Ce 24 heures pour un Québec apprenant, ça se déroulait de façon très libre quand même. C'était des discussions dirigées. Il y avait des conférences.
En fait, l'ensemble de l'événement était une espèce un événement de co-construction.
Ouais.
Dans les propositions qu'on a amenées là, dans les orientations pour un Québec apprenant qu'on a amenées là, c'était uniquement du contenu qu'on avait récupéré là d'une consultation qu'on avait faite en ligne, entre autres, et d'autres événements de consultation qu'on avait fait. Lors des ateliers, les gens étaient entièrement libres d'utiliser ce que c'est qui était fourni comme matériel, c'est-à-dire les commentaires qu'on avait tirés de la consultation, ou d'utiliser des commentaires qui venaient de leur cru. Donc, l'objectif, c'était, en fait, la seule règle de chacune des ateliers, c'était de partir de l'orientation qui était proposée pour en faire une action. Peu importe la façon dont ça se déroulait.
Peu importe la direction que ça allait prendre, mais que ça mène à une action.
Oui. Puis la plupart des ateliers étaient quand même bien représentés aussi. Là, on passait là, une vingtaine d'ateliers répartis en deux blocs. On avait 10 classes disponibles, donc il y avait un premier bloc de 10 ateliers, ensuite un deuxième bloc de 10 ateliers. On allait de 12 à 15 personnes, le minimum comme participation dans un atelier, jusqu'à 29 personnes pour deux ou trois ateliers là, dans la série. Là. Donc, en règle générale, on avait une vingtaine de personnes par atelier. Ça a fait des discussions très riches.
Très animées aussi?
Très animées, oui. Ouais. Pour avoir discuté avec certains des animateurs, des animatrices que j'avais recrutés, là, il y en a pour certains que ça a coulé, puis tout était beau. Il y en a d'autres pour qui ça a été plutôt rock'n'roll, parce qu'ils se sont retrouvés dans une classe avec des gens qui tenaient mordicus à des positions, et puis c'était plus difficile. Mais en même temps, même là où ça a été plus difficile, ils ont quand même réussi à élaborer une action qui était intéressante, puis qui est même très valable pour
et qui plaisait à tout le monde.
Exactement, qui faisait consensus. En fait, c'était ça l'objectif, là, de ne pas orienter les gens vers les ateliers, mais de les laisser eux-mêmes s'orienter. Donc, puis la représentation qu'on avait dans le cadre de l'événement en général se retrouvait, elle aussi, dans le cadre de chacun des ateliers.
Et là, on va reparler un peu plus tard, après avoir entendu des gens qui étaient présents à ce 24 heures. On va parler des conclusions et surtout de ce qui est sorti, ce qui s'en vient aussi, ce qui est sorti de plus concret. On parle de pistes d'action. Peut-être un mot juste pour dire, Ronald Cameron, on parlait de presque tout le monde était représenté là. Est-ce qu'il y avait quand même un manque quelque part? Est-ce qu'il y a des gens que vous auriez aimé voir là ou vraiment tout le monde a répondu à l'appel?
C'est-à-dire, il y avait tous les secteurs étaient présents. Il y a Donc, on parle des secteurs, des groupes communautaires, de l'alphabétisation, de l'éducation populaire, des secteurs d'employabilité, soit dans le communautaire, mais aussi des services d'employabilité. Et il y avait tous les niveaux scolaires, donc secondaire et post-secondaire, collégial et université. Et peut-être le manque, c'est les employeurs ou les organisations d'employeurs. Bien qu'il y avait des représentants, des personnes en ressources humaines qui sont dans les entreprises. Il y a une personne qui va parler.
Chantal Haines, un peu plus tard.
Mais ce sont les organisations d'employeurs. Donc, la question du monde du travail, il y a toute une réflexion critique qui est faite sur la question du monde du travail. Je pense que l'éducation aux adultes, ça peut pas être juste une adéquation emploi-formation.
Mais non.
Il est clair que les enjeux dans le monde du travail sont très importants avec les changements économiques, les nouvelles réalités. Donc, il y a là tout un coup de barre à donner dans le monde du travail et je pense que tous les acteurs doivent être ensemble pour pouvoir pousser dans la même direction. Alors, s'il y avait une difficulté, c'est là. Mais quand même, les attentes ont été rencontrées en quelque sorte, dans le sens qu'il y a eu un momentum. Je pense que l'émission de CIBL y a contribué parce que ça a créé une disponibilité puis une attente.
Ouais.
Et les 250 personnes représentaient une centaine d'organisations. Alors ça, c'est au-delà des espérances qu'on pouvait avoir. Et je pense que la réponse a été très positive. Et c'est pour ça qu'on a pu, qu'on peut être satisfait et qu'on espère que s'il peut y avoir des débouchés à cette activité-là.
De cette première édition officielle de ce 24 heures pour un Québec apprenant. Et là, on va plonger tout de suite dans les témoignages de gens qui étaient présents, qui ont représenté les différents secteurs. Dans quelques instants, on va entendre Catherine Jasmin du Mouvement québécois des adultes en formation. Et on vous retrouve, vous deux, un peu plus tard. Alors, je vous dis qu'on était présent, il y a un journaliste de CIBL qui était présent à ce rendez-vous, à ce 24 heures pour un Québec apprenant le 31 mai dernier, qui a parlé à des gens qui ont participé à ces discussions, à ces ateliers. Et tout de suite, on commence par le Mouvement québécois des adultes en formation. Catherine Jasmin est la secrétaire générale de ce mouvement. Et le Mouvement québécois des adultes en formation, c'est une instance nationale qui représente les adultes apprenants. C'est le journaliste Guillaume Bernillon qui était sur place et qui lui a demandé, entre autres choses, en fait, lui a demandé de parler de cette grande difficulté au niveau de la représentativité. En fait, ce mouvement québécois qui n'est pas associé aux associations étudiantes, d'étudiants normaux, si on peut dire, ceux qui ne sont pas adultes en formation. Et tout d'abord, on va entendre Mme Jasmin, Catherine Jasmin, parler des obstacles que rencontre un adulte dans son parcours de formation.
Nous, au MQAF, Mouvement québécois des adultes en formation, nous rencontrons les étudiants à chaque année, donc dans le cadre de la semaine québécoise des adultes en formation. On a un colloque national, en fait, et on regroupe les étudiants dans des ateliers qui peuvent s'exprimer et parler des embûches rencontrées, des obstacles à leur parcours. Évidemment, aujourd'hui, je vais vous en nommer quatre, mais on pourrait passer la journée à en parler et je crois pas qu'on aurait terminé. Donc, évidemment, il y a d'abord, on parle d'adultes. Hein? Donc, les adultes ont des responsabilités. Ils ont des enfants, ils ont de la famille, ils ont beaucoup de charges, en fait, notamment les dépenses. Pensons à l'habitation, pensons à l'alimentation. C'est tous des besoins de base, en fait, que ces étudiants-là doivent répondre en même temps que leurs études. Donc, c'est de très grands défis et ce sont de grandes difficultés pour des étudiants qui reçoivent très peu de financement au Québec. Et ça, c'est quand qu'ils ont accès à ce financement-là, parce que on pourrait parler aussi de l'accessibilité. On pourrait en parler longuement. Évidemment, il y a toutes les questions de santé qui sont liées à ça. Quand on parle d'aide financière aux études ou autant pour les programmes gouvernementaux là, d'Emploi Québec ou du ministère de l'Éducation, les gens sont maintenus dans une précarité qui est en fait très alarmante. Ça peut toucher la santé physique et aussi la santé mentale. La santé mentale, en fait, ça peut créer de l'anxiété, on peut avoir des troubles de dépression, tout ça, et parfois même des abandons. des personnes vont avoir trop de charges sur leurs épaules et ils vont abandonner leur parcours. J'aime bien le mot aussi interruption. On rencontre beaucoup d'étudiants qui doivent interrompre, retourner, parce que c'est trop difficile les conditions dans lesquelles ils sont maintenus. L'autre aspect, évidemment, c'est en milieu scolaire, une fois que les étudiants ont réussi à passer toutes les portes qui sont entrebâillées, là, donc ils sont sur les bancs d'école, évidemment, il y a d'autres difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Il y a des difficultés d'ordre psychosocial, des difficultés notamment d'apprentissage. Ça peut être la dyslexie, le trouble de l'attention non diagnostiqué. Donc, ces personnes-là ont besoin de ressources, ont besoin de services. Les enveloppes sont très limité par rapport à ça. Donc, évidemment, un besoin criant, ce serait de donner plus de services à ces personnes-là qui en ont tant besoin et qui peuvent tellement contribuer à la société là, au niveau d'une richesse intellectuelle. Évidemment, la main-d'œuvre, mais on parle beaucoup de richesse intellectuelle. Des citoyens capables d'agir et de naviguer dans notre société.
C'était la première intervention de Catherine Jasmin, la secrétaire générale du Mouvement québécois des adultes en formation, qui nous parlait donc de quelques obstacles, des obstacles que rencontrent les adultes qui suivent des parcours de formation. Mais quand on a des obstacles, souvent on pense à des solutions quand même. Et le journaliste Guillaume Bernillon a demandé à Catherine Jasmin les solutions qui étaient envisagées du côté du Mouvement québécois des adultes en formation.
Bien, dans le cadre du 24 heures pour un Québec en prenant, nous avons trois solutions à proposer. Nous avons une vision visionnaire, si on peut se permettre l'expression. Ce serait premièrement, évidemment, l'accès à la formation de base. Parce que ce n'est pas tous les personnes au Québec qui ont accès à cette formation-là et nombre de personnes qui voudraient y accéder. Donc, on demande, évidemment, on propose qu'avec un soutien financier, toute personne désireuse de terminer son secondaire et embarquer en alphabétisation puisse avoir accès à cette formation de base. Ce serait un besoin criant. Voilà. L'accès à des services spécialisés. De permettre au centre d'éducation des adultes, formation générale et professionnelle, les cégeps et les universités aussi, là, mais les besoins sont plus... Donc, des orthopédagogues, des conseillers en orientation, du soutien scolaire et aussi au niveau de la famille, de l'entourage. Là, donc, des services sociaux aussi, ce serait bien important. Et le troisième, et non le moindre, celui que j'aimerais que tout le monde retienne, que nous aimerions que tout le monde retienne, en fait... C'est l'accès à un programme de son choix. Les programmes sont orientés en fonction de la main-d'œuvre, des besoins de main-d'œuvre au Québec. Et chaque personne, chaque individu devrait pouvoir choisir sa formation en fonction de ce qu'il désire. De quel droit on se permet de limiter les désirs d'une personne, de dire hey, « Toi, là, t'en as trop à faire, ton parcours va être trop long. Non, va-t'en ailleurs. » Ou une personne qui désire aller à un niveau universitaire ou cégep, et on lui dit « Non, tu dois demeurer au niveau des diplômes d'études professionnelles, ce qui est très bien en soi, mais si la personne ne veut pas aller là, on souhaite que chaque personne puisse réaliser ses souhaits. Voilà.
Que chaque personne puisse se réaliser quand même, c'est vrai que c'est assez essentiel. Catherine Jasmin, secrétaire générale du Mouvement québécois des adultes en formation. Et on termine avec elle, avec cette question, en fait, pour concernant cet événement du 24 heures. Quelle était l'importance de participer à cet événement que je pense que tout le monde attendait? On va l'écouter.
Bien, évidemment, d'abord et avant tout pour prendre parole, parce que les étudiants adultes, comme je vous expliquais plus tôt, ne sont pas représentés au sein de la société. En fait, on fait notre possible pour le faire, mais on rencontre de grandes difficultés au niveau de la loi. Donc, c'était très important pour nous d'être là et de prendre parole pour les étudiants qui sont aujourd'hui sur les bancs d'école et qui n'ont pas la permission de quitter parce qu'on les maintient sur leur banc d'école. Donc, voilà, on trouvait que c'était bien important. Et évidemment, les enjeux qui sont soulevés aujourd'hui ont le potentiel de changer le Québec pour devenir un Québec apprenant. Voilà.
Quelle belle parole de Catherine Jasmin, donc secrétaire générale du Mouvement québécois des adultes en formation, qui parlait d'aujourd'hui, bien sûr, c'était le 31 mai dernier, dans le cadre de ce rendez-vous pour un Québec apprenant. On va plonger dans quelques minutes dans le monde du travail. On parlait tout à l'heure avec M. Cameron que c'était le secteur qui était peut-être un peu moins présent à ce 24 heures, mais tout de même, il y avait Chantal Haines, qui est conseillère en ressources humaines, qui est responsable de la formation chez Axéo Solutions, qui va nous parler, entre autres, du genre de soutien qu'aurait besoin la formation formation dans les PME, surtout au Québec, tout de suite après cette pause musicale.
La pluie et le beau temps, c'est pas banal. On n'en parle jamais trop. Non. Regarde comme il fait beau, ressens comme il fait bon. Il traverse la fenêtre du ciel jusqu'à ma tête. Ses effets collatéraux sur mon humeur et sur ma peau, j'en rêve.
De retour pour un Québec apprenant. On replonge dans cet événement du 24 heures pour un Québec apprenant qui se déroulait le 31 mai dernier à Montréal. Et après avoir parlé des adultes en formation, on va parler maintenant du monde du travail. Il y avait Chantal Hintz, qui est conseillère en ressources humaines, responsable de la formation chez Axio Solutions, qui était présente dans ce 24 heures. Axio Solutions, qui est une entreprise en technologie de l'information. Et également, Chantal Hintz est représentante des entreprises au comité d'évaluation de la formation en emploi à la Fédération des chambres de commerce du Québec. Donc, vraiment, elle aussi, on parlait de gens qui ont les mains vraiment là-dedans. Disons que Chantal Hintz est très impliquée dans tout ce qui concerne la formation dans les milieux de travail. Et le journaliste Guillaume Bernillon lui a d'abord demandé quel genre de soutien aurait besoin la formation en milieu de travail particulièrement dans les PME québécoises.
Parler des PME, ça serait, il y a énormément de travail à faire dans les organisations, dans les PME, dans les moyennes entreprises aussi, dans les grandes. Alors, je vous dirais, le message essentiel, si je pouvais dire aujourd'hui, c'est que les entreprises encore font de la formation, mais méconnaissent la formation. Alors, quand on parle de formation, ce ne sont pas que les activités qui sont organisées avec des entreprises externes, fournisseurs, des établissements d'enseignement reconnus, des consultants qui viennent offrir de la formation, mais il y a aussi tout l'aspect de l'accompagnonnage, l'aspect du parrainage, de l'accompagnement d'entreprise, des programmes, comment je pourrais spécifier, des programmes d'accueil, des programmes d'intégration, les nouveaux gestionnaires qui sont promus pour un poste, exemple, sur un technicien qui devient gestionnaire. Alors, comment aider cet employé-là à justement performer dans ses talents de gestionnaire au-delà du technique? Donc, tous ces aspects-là, les stagiaires qu'on accueille aussi, parfois on va oublier que c'est de la formation dans l'entreprise. Donc, la certification, tout le transfert de nos connaissances qui se fait dans les organisations est parfois méconnu, je dirais, et non enregistré. Alors, tout le monde, parfois les gens, malgré les exigences de la loi sur la formation, la loi du 1% qui oblige les entreprises à former dans les organisations, elle n'est plus applicable maintenant pour les PME. Elle n'est seulement que pour les entreprises qui ont une masse salariale d'un million et plus. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ces petites entreprises-là qui ont vraiment besoin aussi de former leurs gens, qui ont besoin de connaître les ressources qui existent, les ressources financières, les ressources d'Emploi Québec, les ressources du réseau, tout le bassin de connaissances à l'externe qui est à connaître, qui malheureusement, les PME, avec leurs enjeux d'affaires, leurs enjeux de ressources humaines, leurs enjeux économiques, tous les enjeux, parfois méconnaissent. Alors ça, je dirais que c'est une force qu'il faudrait développer davantage et aussi outiller davantage nos présidents, nos gens qui sont dans les PME, parce que souvent, dans les PME, tu as des petites entreprises, que ça peut aller de 12 employés à 70 employés. Donc, à ce moment-là, c'est important d'aider ces gens-là, de leur fournir, comme je disais tout à l'heure, les ressources, mais les outils, mais aussi leur expliquer c'est quoi de la formation. Parce que parfois, ils vont dire, ben oui, je vais acheter un cours, puis quelqu'un va intervenir, bon, prends un cours à tel endroit, prends un cours d'anglais, fais ci, fais ça, de façon pompier. Mais on ne prend pas le temps de planifier, d'être stratégique dans nos enjeux formation, autant que dans les enjeux économiques de l'organisation. Donc, je dirais que ça aussi, c'est un autre aspect. Tu as l'aspect des ressources à l'externe, tu as des aspects financiers aussi, il y a des subventions qui existent. Alors, ça aussi, c'est à connaître pour les entreprises, les PME, d'outiller nos gens et aussi de leur expliquer c'est quoi la formation, les différents types de la formation, que tu as de la formation à reconnaître autant à l'interne, autant qu'à l'externe. Développer un talent dans une organisation, ce n'est pas seulement que la responsabilité de l'employeur, mais aussi, c'est la responsabilité de l'employé. Alors, c'est d'être capable de valoriser, de conscientiser nos employés pour les motiver, pour leur donner le goût de s'épanouir dans l'organisation et d'aller se réaliser dans leur passion, dans les défis de l'organisation, dans leur talent et aussi dans les compétences du poste auquel ils performent, ils doivent, tu sais, dans le fond, qu'on doit répondre à nos enjeux d'affaires. C'est l'objectif. Donc, je dirais que le message, pour terminer, le message essentiel qui est à retenir, c'est que l'employé est responsable et autonome de son développement professionnel selon les compétences de son poste, mais aussi du côté de la gestion qui doit être à l'écoute de ses employés pour être capable de bien gérer les enjeux du capital humain, les enjeux économiques. Et l'autre élément aussi, pour terminer, c'est d'être à l'affût de tout ce qui se passe à l'externe de l'organisation, tout le soutien d'Emploi Québec, des organismes, et je nomme Emploi Québec, mais tu as les associations d'employeurs, tu as les fédérations, tu as beaucoup d'organismes autour qui peuvent aider l'entreprise. Parce qu'il y a la loi du 1% qui n'est pas juste que pour les grandes entreprises, mais aussi que pour les moyennes qui peut s'appliquer. Le concept de la loi, la certification de la formation aussi. Alors, il y a beaucoup de choses à connaître et à développer.
C'était Chantal Hens, qui est conseillère en ressources humaines, responsable de la formation chez Axio Solutions, qui parlait du genre de soutien dont on a besoin dans les PME au Québec. Et comme Catherine Jasmin un peu plus tôt, Guillaume Bernillon, le journaliste, a demandé à Mme Hens l'importance pour elle et pour son organisation de participer aux 24 heures pour un Québec apprenant.
c'est d'être capable de briser les silos. Et justement, j'animais tout à l'heure un atelier et c'est d'être capable de voir tous les enjeux qui se passent entre le milieu de l'éducation, le milieu des affaires, le milieu gouvernemental. Alors, d'être capable de marier tous ces organismes-là, toutes ces au bien-être, dans le fond, de l'adulte en apprentissage tout au long de sa vie. Et comme je disais tout à l'heure, d'être conscient, je pense qu'en venant ici, c'est de prendre conscience qu'en tant qu'adulte responsable, j'ai aussi... l'obligation en tant que citoyen de faire le mieux-être pour l'économie au Québec. Donc, c'est en étant à l'affût, à l'écoute de tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'on peut changer, parce qu'il n'y a jamais rien d'acquis. Donc, qu'est-ce qu'on peut changer au niveau de l'éducation? Qu'est-ce qu'on peut changer au niveau du gouvernement? Qu'est-ce qu'on peut changer dans nos organisations? Alors, moi, en tant que personne, en tant que responsable des entreprises, en tant que responsable des organisations au niveau de la formation, qu'est-ce que je peux faire pour faire avancer la cause de la formation au Québec? Parce que malheureusement, on dit qu'encore au Québec, on est une des provinces qui est le plus en retard au niveau de la formation. Alors, si nous, en tant qu'individus, on n'a pas notre responsabilité de prendre part à ce projet-là, alors il y a encore beaucoup de travail à faire.
Encore beaucoup de travail à faire et on va en discuter encore une demi-heure à cette dernière émission de Pour un Québec apprenant. On va aller en pause publicitaire et tout de suite après, on parle avec Josée Scalabrini, qui est vice-présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement.
Pour animer la société à Montréal, CIBL 101.5.